Hablemos de Lucía con ella, ¿no? Por un instante de su ciudad, de París. Vive allí hace muchos años y, bueno, a mí me gustaría saber qué es lo que más le gusta, qué es lo que más lo hace feliz de esa gran ciudad.
Vous habitez Paris depuis longtemps. Qu'est-ce que vous aimez de Paris? Qu'est-ce que vous plaît dans cette ville, d'habiter cette ville?
Je crois que j'aurais du mal à habiter ailleurs, ou alors j'habiterais à la campagne, loin de tout. Mm-hmm. Mais c'est la ville où je respire le mieux, même si l'air est très très mauvais. Mais il est vrai que c'est une ville qui me... Le fait de marcher, de se promener, de regarder des choses, de regarder des immeubles, d'écouter les gens, de croiser des dialogues comme ça, ça a toujours été un lieu qui me donnait un peu des idées pour construire mes petites histoires, plus qu'ailleurs. Ou alors il y a des lieux très... Enfin, il y a des pays lointains où j'ai pu aller. Il y en a aussi où je ne suis pas allé, que j'ai essayé d'imaginer. Mais Paris, c'est une espèce de... Pour moi, c'est une espèce de ben, ça fonctionne un peu comme moteur dans ma vie. Et puis, c'est un peu un moteur pour mes romans.
D'accord. Bueno, muy bien. Al principio, nos decía que no sabía, que lo que le pasa es que no le gustaría, tendría una dificultad en vivir en otro lado, o quizás si no viviría simplemente en el campo. Dice que en París se respira mejor, aunque evidentemente el aire de París es un aire bastante contaminado, y que lo interesante de París es el poder caminar, el poder pasearse, escuchar a las personas, cruzar diálogos. Esto da ideas. Por lo menos en París, más que en otros lugares. En otros lugares a donde ha estado, a otros lugares donde imagina que podría estar. Y que en ese sentido, entonces, París es motor de su vida y motor de su novela, de sus novelas. De las historias, de las pequeñas historias que trata de contar.
Y bueno, ahora pasemos al capítulo de la música, Lucía. Uh-huh. Sabemos que toca el contrabajo y que en su familia siempre hubo mucha música. Pero nos gustaría que nos contara cómo empieza su relación personal, individual, de amor con la música.
D'accord. On passe à la partie musicale de l'entretien. Nous savons que vous jouez la contrebasse et que dans votre famille il y a toujours de la musique. Mais on aimerait savoir comment débute votre rapport personnel, individuel avec la musique.
D'abord, je joue pas de la contrebasse. Non, mais j'ai joué avec une contrebasse, mais il y a 40 ans, c'était une période très lointaine. Ben, la musique, il se trouve que j'ai eu la chance de grandir dans une famille où on écoutait beaucoup de musique. Ma mère jouait du piano, mes deux grands-pères aussi étaient un peu pianistes. Et la musique faisait partie de la vie quotidienne, on vivait là-dedans. Et il y a des... C'est une chance, hein, c'est une situation un peu d'héritier, puisque j'ai pu accéder très tôt, enfin parce que j'entendais ça, à des œuvres qui m'ont touché spontanément sans qu'on m'oblige à les aimer. Et je pense à, par exemple, à... Dans mon enfance, les deux choses qui m'ont le plus marqué, c'était Stravinsky et Maurice Ravel.
D'accord. Bien. Bueno, nos decía que ha tenido la suerte de estar justamente... No, bueno, primero que nada, perdón, nos decía que no toca el contrabajo.
Es un dato equivocado.
Pero que ha tenido la suerte de nacer en el seno de una familia donde la música era muy importante, una madre que tocaba el piano, abuelos también pianistas, que en ese sentido se siente heredero de todo esto y que ha podido entonces tener contacto con obras que lo conmovieron sin que hubiese ninguna obligación. Y en ese sentido, entonces, ya desde muy pequeño tuvo contacto y estuvo conmovido y tocado por la obra de Stravinsky y de Ravel.
Que de algún modo son, claro, los músicos que compartieron, por lo menos en un momento de la historia del siglo XX, como la titularidad del músicos más importantes de Europa. Ahora le vamos a pedir, Lucía, al escritor que se coloque los auriculares por un instante, si está armado.
Si vous voulez bien entendre un peu de musique pour pouvoir nous donner de vos réactions par rapport à ce que vous allez
entendre. Para que nous dise exactement qué boca,
qu'est-ce que cette musique évoque pour vous.
J'écoutais ça, mais il le joue un peu trop lentement.
Enfin.
Pour moi.
Il dit je l'écoute, mais me parece que lo está tocando un poco lento.
C'est qui
c'est un italien.
Ah, c'est un grand pianiste. C'est un grand pianiste. Mais vous savez, quand c'est une pièce que je connais depuis mon enfance, mais on est toujours très frappé par les premières interprétations. C'est comme si la première... enfin, après, on en écoute d'autres. Mais là, je trouve que... Bon, Michelangeli, c'est un très grand pianiste. Mais moi, c'est une pièce très lente. C'est quoi? C'est la pavane? C'est la pavane?
C'est la pavane? Non,
c'est pas la pavane.
C'est le concert.
Le concert de...
C'est le deuxième mouvement.
C'est
le deuxième mouvement, ouais.
C'est le second mouvement du concert.
C'est ça, ouais.
C'est un commentaire critique, c'est le premier que j'ai vu.
Mais c'est quelque chose, c'est une des plus belles choses que je connaisse, ça, ouais.
Ok, bien. Et il dit que c'est une pièce que connaît depuis l'enfance, que c'est une des choses les plus belles que connaît, et que, dado que la connaît depuis très petit, enseguida le viennent à la mente les premières interprétations qu'elle a écoutées. Donc, de ahí le contraste aussi avec ce que toca Michelangeli, comme une interprétation lenta en contraposition avec d'autres que elle a écoutées.
Contémosle à les oyentes, mientras suena la música, que lo que está escuchando. Es el concierto para piano de Ravel.
El segundo movimiento.
El movimiento lento.
Movimiento lento.
Al que hay además una alusión muy particular en el libro del que vamos a hablar ahora.
Non, j'ai dit des bêtises. J'ai dit des bêtises parce que vous m'avez surpris. En fait, il faut le jouer comme ça, lentement.
Il faut le jouer comme ça, lentement.
Oui, j'ai dit des bêtises.
Non, me equivoqué. En realidad, hay que interpretarlo lentamente. que lo hemos sorprendido.
Non, c'est bien. Mais j'étais surpris parce que je croyais que c'était une autre pièce de Ravel. Et évidemment, ce mouvement-là, il a quelque chose d'apparemment très, très naturel. Et je me souviens que quand une amie de Maurice Ravel, admirait beaucoup ce passage, parce qu'elle disait que ça coule tout seul, et il s'était mis très en colère parce qu'il disait j'ai cru mourir en faisant chaque note,
D'accord. Dice que sí, que de hecho hay que tocarlo así, que al principio él pensó que se trataba de otro movimiento. Dice que lo lindo de este movimiento es que es muy natural, y que es ese recuerdo de un amigo de Ravel que decía que lo que le gustaba de este movimiento era que fluía muy por sí mismo, mientras que Ravel se enojaba y decía, bueno, pero a mí me costó escribir cada nota.
Está dicho así tal cual en el libro.
Et on se souvient du fait qu'il y a les passages dans les romans où vous évoquez l'écriture de ces morceaux, où le compositeur a eu énormément du mal pour créer quelque chose qui semble...
Qui a l'air tout à fait naturel.
Naturel. Je l'ai dit donc à Jeanne Genos que nous recordábamos este passage de su novela où il évoque le moment de la composition de cette partie. Una composición que le causó muchas dificultades al compositor, pero que sin embargo justamente tiene este aire de ser terriblemente natural.
Sí.
Bien.
Ahora nos ponemos fantasiosos por un instante, Lucía, y le preguntamos sobre qué le gustaría conversar en un encuentro imaginario con Abel.
Okay. On voudrait vous proposer une petite fiction en tout cas. Si jamais vous rencontriez Maurice Ravel, est-ce que de quoi vous parleriez avec lui? Quel serait le sujet d'un dialogue avec un tel compositeur, entre l'écrivain et le compositeur?
J'ai toujours un peu de mal avec des artistes à parler de leur art, et puis je sais qu'avec les quelques amis que j'ai qui font la même chose que moi, qui écrivent soit de la fiction, soit de la... Enfin, on parle pas de littérature, je sais pas, peut-être qu'on parlerait de cigarettes avec Maurice Ravel plutôt.
Muy bien, dice que a veces tiene dificultades con los artistas para hablar de arte, y que con sus amigos escritores, de hecho, habla de cualquier otra cosa, y que piensa que con Ravel probablemente terminarían hablando de cigarrillos.
Mais si, ce que j'aimerais aussi savoir, parce que c'est une hypothèse, c'est un peu plus sérieux, c'est parce qu'il y a des spécialistes de Maurice Ravel qui disent qu'il a été très influencé par des formes de la musique populaire basque. Et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours eu du mal à voir, d'abord parce que je connais mal cette tradition musicale. Et je serais très curieux de savoir quelles ont été ces sources du côté de la musique populaire du Pays Basque, et aussi de ce qu'il a pu recevoir du côté de la musique de jazz américaine quand il en a pris, enfin quand c'est arrivé à Paris. Et bon, quand c'est arrivé à Paris, est-ce qu'il a dû rencontrer pendant son voyage aux États-Unis?
Bien. Entonces, se le han ocurrido otras cosas que podría preguntarle a Ravel. Una de ellas es una hipótesis, que es algo que le da curiosidad y que quisiera saber. Varios especialistas de la obra de Ravel han propuesto que hay una influencia de la música popular vasca especialmente, y que es algo que él, por desconocimiento de la música popular vasca, no ha logrado nunca encontrar en la obra de Ravel, y de ahí entonces su curiosidad, su interés por poder preguntarle a Ravel de qué se trata. Y otra influencia...
Ravel nació muy cerca de España, ¿no? Hay una cuestión ahí. Pero te interrumpí, Lucía, por favor.
No, está bien. Y quizás otra cosa que podría ser interesante preguntarle es sobre su influencia, la influencia que tuvo sobre él, el jazz americano.
Sí.
Que sea del jazz americano cuando llegó a París, o de en su viaje a Estados Unidos. Qué contactos pudo haber tenido con el jazz.
Bueno, los dos movimientos extremos del concierto del que le hacíamos escuchar, el movimiento central, son muy jazzísticos, en general se los califica de ese modo. Vamos a ver, Lucía, ahora, hablando de música francesa, ¿qué nos dice de esto? En general las enciclopedias enseñan que la música alemana es la más rica de todas, ¿no? Porque produjo a Bach, a Mozart, a Beethoven, a Brahms y a Wagner. Y a mí me interesa saber si él está de acuerdo con esto, o si cree que la música francesa tiene por lo menos tantos genios para ofrecer como la alemana, o incluso más, ¿no? Pensando en Rameau, en Charpentier, en Fouquet, Debussy.
Muy bien. Entonces, c'est encore une question sur la musique. Fernando dit qu'en général, les encyclopédies nous enseignent que la musique allemande, c'est la plus riche, puisque c'est elle qui a produit par Mozart, Beethoven, Brahms, Wagner. Est-ce que vous seriez d'accord avec ceci, cette idée, ou est-ce que, par contre, vous pensez que la musique française peut être également riche?
Ah non, écoutez, je vous répondrai très simplement. Les musiciens que j'écoute le plus souvent Bon, j'écoute moins de musique qu'avant, mais ce sont toujours un peu les mêmes compositeurs que, naturellement, c'est Schubert et Haydn. Donc, c'est plutôt du côté de la musique allemande. Ouais.
Donc, no estaban en la lista.
Bueno, entonces este, dice que la música que escucha más a menudo, aunque no escucha tanta música como antes, son Schubert y Haydn.
Que no son franceses.
Que no son franceses et qui n'étaient pas dans la liste.
Qui n'étaient pas dans la liste. Et j'ai un ami pianiste qui dit quelque chose de très beau parce que je lui parlais de Haydn et de Schubert et il me disait, écoutez Haydn, ça console d'écouter Schubert.
Un amigo pianista de Jean Echenoz, este, cuando él le habla de que él escucha a Schubert y a Haydn, dice que escuchar a Haydn le permite, es lo que permite curarse de haber escuchado a Schubert.
Qué interesante, qué interesante. Bueno, vamos a preguntarle algo muy sencillo y muy vital, me parece ahora a Lucía, ya casi en el final del diálogo. ¿Cómo diría que conviven en su vida, en sus días, la literatura y la música? ¿Podemos decir, si él nos permite la comparación, que una es su mujer y la otra su amante? ¿Es cuestión de momentos? ¿Le resulta siquiera a veces una más necesaria que la otra?
D'accord, c'est une question encore sur la musique, mais sur la, surtout sur la cohabitation dans votre vie de la littérature et la musique. Est-ce qu'on pourrait dire, si vous nous permettez l'analogie, que l'une c'est votre femme et l'autre c'est votre maîtresse? Est-ce que c'est une question de moments, d'envie, de la circonstance? Est-ce que l'une est plus nécessaire que l'autre, de temps en temps ?
Les choses ont changé, parce qu'avant, la musique faisait partie de façon très, très permanente de ma vie. Et peut-être moins maintenant, mais ça, c'est l'évolution. C'est de la même façon, je vais moins au cinéma qu'avant. Enfin bon, c'est la vie. Mais en tout cas, je ne crois pas qu'on puisse opposer l'une et l'autre comme un amour légitime et l'autre un amour caché. Parce que, en tout cas, ce que je sais, c'est qu'il y a beaucoup d'émotions musicales que j'ai eues dans ma vie qui ont dû me servir à quelque chose de la littérature, à quelque chose de recherche de sonorité, de rythme, de syncope, d'accord, de tempo, des choses comme ça.
Bien, dice que las cosas han cambiado porque antes la música era para él algo más permanente. Hacía la referencia que, por ejemplo, también ahora está yendo menos al cine que antes, pero que sin embargo no diría que se oponen la una a la otra como podrían oponerse el amor legítimo y el amor escondido, sino que por lo contrario, muchas nociones musicales como la sonoridad, el tempo, el compás. Los acordes le han servido para producir literatura y se han integrado entonces de alguna forma naturalmente a su trabajo literario.
Se alimentan la una y la otra entonces. Y bueno, ¿qué música nos va a recomendar para que suene junto a este diálogo?
Muy bien. La dernière question, c'est encore une recommandation qu'on vous demande, mais maintenant c'est une recommandation musicale. On aimerait accompagner notre émission de votre entretien avec de la musique. Est-ce que vous pouvez trouver pour nous une musique que vous souhaiteriez entendre dans cette émission?
Oh, oui.
Je prends note.
Oui. Ben, vous pourriez... Il y a un trio, un morceau qui s'appelle I Love You Porgy. Et c'est le trio de Bill Evans avec Scott LaFaro à la contrebasse et à la batterie. J'ai oublié le nom du batteur.
Si, on est allé vers les jazz.
Là, oui, parce que c'est quelque chose qui est très émouvant, qui est très très fort et qui est, voilà, mais que je.
C'est pour Guy Ambès.
C'est un extrait, oui. C'est un extrait, oui. C'est un des thèmes de Porgy and Bess.
Bien. Bueno, Jean Echenoz nous acaba de recommander, entonces, el trio I Love You Porgy, de Paul Guillembez. Bueno, nos ha dicho quiénes son los músicos, sí. Entonces, que lo tocan. Fernando ya lo tiene seleccionado, ya lo tiene en mente.
Me parece una sorpresa, una linda sorpresa.
C'est une très belle surprise.
Por último, ya que el programa que conducimos, Lucía, se llama Oír con los ojos, por aquello de que leer es oír con los ojos las voces de los autores, nos encantaría que dedicara un ejemplar de su Ravel a un oyente del programa, del que no sabemos nada, excepto que en las páginas de este libro se va a encontrar con la voz de Jeanne Genoz.
On vous invite à dédier cette livre à un de nos auditeurs. On ne sait pas encore qui, quelqu'un qui voudra bien se mettre en contact avec nous et demander les livres. Puisque notre émission s'appelle Écouter avec les yeux, et donc c'est une métaphore de Quevedo pour parler de la littérature qui nous permet d'entendre les voix des auteurs. Donc c'est encore une façon d'entendre votre voix.
Et bien avec plaisir.
Merci.
Le vamos a agradecer entonces a Jeanne Genoz por este diálogo que bueno, ha sido muy muy rico en literatura y en música y sobre todo muy muy amable y muy dichoso.
Merci.
Seulement nous reste vous remercier pour ce dialogue qui a été parfaitement joyeux et très intéressant.
C'est moi qui vous remercie.